I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Sophie de Chivray, la créatrice d'Au Revoir Podcast. En septembre, Au Revoir Podcast va fêter ses 3 ans. 3 années pendant lesquelles j'ai travaillé d'arrache-pied pour lever le voile sur le deuil périnatal sous toutes ses formes et surtout pour faire entendre les voix de celles et ceux qui traversent cette épreuve. Après une longue pause, et oui, je travaillais sur un projet que vous découvrirez dans quelques semaines, je vais reprendre du service en septembre pour vous proposer de nombreux épisodes inédits. À ce propos, merci pour votre patience. Au Revoir Podcast, c'est aujourd'hui plus d'une 50aine d'épisodes qui abordent toutes les facettes, ou presque, du deuil périnatal, et ce sont des 100aines d'heures de contenu gratuit. Aujourd'hui, j'ai donc besoin de votre aide. Sur la plateforme Tipeee, vous pouvez faire un don pour Au Revoir Podcast à partir d'1€. Un petit coup de pouce qui m'aidera dans mon travail et me permettra de poursuivre cette aventure en proposant toujours plus de ressources sur ce deuil encore tabou. De ressources pour vous accompagner, de ressources pour sensibiliser. Rendez-vous sur la plateforme Tipeee, tipeee.com/au-revoir-podcast pour en savoir plus. Je vous mets le lien direct dans la description de l'épisode. Je vous remercie par avance pour votre générosité. Et maintenant, je vous laisse écouter l'épisode. Au Revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse, au moment de l'accouchement ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce podcast abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero ou de décès d'un enfant, quelques minutes, heures, jours ou semaines après sa naissance. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas. Dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une belle écoute. Quand on perd un bébé, la blessure est immense. La plaie, elle reste pendant des semaines, des mois, béante. Et petit à petit, elle se referme. Cela ne veut pas dire qu'elle n'est plus douloureuse. Elle l'est toujours, mais de manière différente. La blessure est devenue cicatrice. Le deuil périnatal, c'est comme cette blessure qui se mue un jour en cicatrice. Une cicatrice invisible aux yeux des autres, mais une cicatrice qui marque de manière permanente notre histoire personnelle et familiale. Parfois, on a besoin justement que cette cicatrice invisible devienne visible. Et quoi de mieux qu'un tatouage pour rendre hommage à ce bébé qui est ancré avec un A dans notre mémoire et qui va ensuite être ancré avec un E sur notre peau. Un tatouage pour symboliser de manière permanente, sur la surface de notre corps, cette expérience hors norme, cette grossesse arrêtée, ce décès in utero, cette mort de l'enfant à peine né, cette épreuve dont il a fallu se relever. Il y a des traces indélébiles qui restent en nous à tout jamais. Et c'est de ça dont on va parler dans ce court épisode. Quelques minutes pour parler de tatouages, de dessins, de peau, de symboles d'amour, de force, d'encre et de mémoire. Au Revoir Podcast, les tatouages du deuil périnatal, numéro 11, lisons un bourdon près de ma poitrine. Aujourd'hui, c'est Lison qui va vous raconter l'histoire de son tatouage. Un bourdon qui s'est déposé près de sa poitrine, comme le bourdon qui virevoltait dans les airs le jour de l'enterrement de sa petite Ada, née sans vie. Je vous laisse découvrir son parcours.
Ada, c'était ma première grossesse, mon premier bébé. C'était la découverte de tout cet univers de la maternité qui m'était alors totalement étranger. Avec elle, j'avais une forte connexion. Lorsque je posais la main sur mon ventre, elle venait se lever tout contre. Et puis, il y a eu des signaux d'alerte, des semaines d'attente de diagnostic, et enfin, une histoire de gènes en nanos et mosaïques. Et sa vie s'est résumée à une liste de handicaps mentaux et physiques. J'avais l'impression qu'il fallait une vie entière pour prendre le bon choix éthique pour elle. J'ai finalement décidé de faire une IMG que j'ai programmée 3 semaines après l'annonce du diagnostic. J'avais besoin de ce temps pour me préparer parce que je savais médicalement à quoi ça allait ressembler toute cette épreuve. J'ai donc profité d'elle et de cette connexion qu'on avait jusqu'au dernier moment en sachant que c'était les dernières fois. Et à l'hôpital, lors de l'acte féticide, comme ils appellent, oui, j'avais cette sensation de m'envoler, presque si mon âme et la sienne s'envolaient en même temps. Et donc, quelques jours après, quand nous avons fait l'enterrement, c'était un 5 décembre, il faisait très froid, et au-dessus de la tombe, est venu un bourdon, et tout le long, il a volté entre elle et nous, donc en petit comité, les grands-parents, son père et moi. Et j'ai vu dans ce bourdon, j'ai vu son âme qui venait une dernière fois faire le lien. L'envie de tatouage est venue rapidement après, parce que j'avais envie de la garder dans mon corps, cette idée d'inscrire dans son corps. Et comme j'avais un projet tatouage en commun avec mon mari qu'on avait mis de côté le temps de la grossesse, parce qu'il est déconseillé de se tatouer lorsqu'on est enceinte, j'avais donc ce projet qu'on repoussait. Et j'ai fait 2 tatouages, on a pris rapidement rendez-vous. J'avais déjà un tatouage qui allait du mollet jusqu'au pied, des fleurs. Et comme la séance était tombée peu de temps après les attentats de Nice du 14 juillet 2016, où j'avais travaillé dessus, je m'étais occupée de 14 personnes décédées, j'ai eu l'idée d'inscrire de manière assez cachée un 14 dans les tiges des fleurs. C'était pour moi, parce que je ne les oublierai pas et c'était une certaine manière de leur rendre hommage. Donc finalement, les tatouages, par le hasard de leur temporalité, étaient un peu liés à des traumatismes jusqu'à présent, sauf du coup celui qui était en commun avec mon mari, qui symbolisait l'amour. Et donc, le bourdon que j'ai fait, qui symbolisait Ada. Initialement, je ne voulais pas forcément faire des tatouages avec beaucoup de sens. C'était surtout le côté esthétique. Mais vu que c'est douloureux et cher, j'aime savoir qu'il y a quand même du sens dedans. Par contre, j'ai longuement hésité pour le choix du motif. Donc, comme le projet initial de tatou commun avec mon mari, c'est 2 mains qui se serrent la main d'une certaine manière, en référence à notre façon de se prendre la main, on s'est connus très jeunes et on a toujours fait comme ça. Et je l'ai fait sur le poignet, et je voulais sur l'autre poignet peut-être une main d'adulte avec une main de bébé. Mais j'avoue que j'ai été influencée par mon mari qui m'a déconseillé de faire ce tatouage avec ce sens-là dans un endroit que je voyais tous les jours, donc le poignet. Et il m'a aussi déconseillé de faire quelque chose qui a trop du sens avec une main de bébé, plutôt quelque chose de plus subtil. C'est pour ça que j'ai pensé à ce bourdon et le côté plus spirituel. Et donc l'emplacement s'est délocalisé sur mes côtes, sur le côté. Où, ça avait quand même un sens pour moi parce que c'était sur le thorax, là où elle est restée si longtemps, et pas loin aussi de ses seins, parce que je m'apprêtais à allaiter, c'était plus près du cœur. Bien que si c'était à refaire donc maintenant, je crois que j'aurais fait ma première idée pour le voir plus souvent, et j'aurais moins eu de tabou par rapport au fait que ce soit connoté vraiment bébé décédé. Lorsque cette séance de tatouage est arrivée, déjà je l'ai demandé rapidement à la tatoueuse que je connaissais qui m'avait fait le premier tatouage, parce que je voulais réessayer rapidement d'avoir un autre bébé. Je suis quand même retombée enceinte entre le décès d'Ada et la séance de tatouage, mais ça a été une fausse couche au bout de 1 ou 2 mois. Donc on l'a fait après. Voilà, je voulais pas repousser plus longtemps. Donc vers mars-avril 2020, sachant qu'Ada était décédée en décembre 2019. Je n'ai pas trop de souvenirs du jour du tatouage. Je suppose que j'étais dans un état d'esprit plutôt triste et lointain. Mais c'est plus la période qui veut ça que la séance en elle-même. Et je me souviens juste que mon mari regardait la machine, le fonctionnement de la machine, et pendant qu'elle me grattait le bourdon sur les côtes, il lui demandait comment fonctionnaient les aiguilles qui venaient percer ma peau. Moi, je lui ai dit que c'était peut-être pas le moment d'en parler pendant que je ressentais tout. Et bizarrement, j'ai eu que ce souvenir de la séance. Je pense que je lui ai raconté quand même notre histoire à notre tatoueuse. Et je suppose qu'elle a été peinée, mais j'ai pas vraiment de souvenir. J'ai plus le souvenir de suite après la séance où je l'ai trouvé magnifique ce tatouage. Et d'ailleurs, je l'ai montré, j'ai baissé mon t-shirt pour le montrer à peu près tout le monde. Comme quoi, j'avais quand même envie qu'il soit visible. Et d'une certaine manière, ça me faisait parler d'elle, donc j'avançais comme ça dans mon deuil. J'ai fait plusieurs fausses couches après. J'ai d'ailleurs pensé à faire des tatouages en lien avec ces fausses couches. Je pense qu'il faudrait me faire le corps entier, parce que j'ai quand même eu une histoire compliquée après. Donc j'y pense toujours, j'attends peut-être la bonne idée, le bon motif. Mais parce que oui, je pense que ça peut faire partie du processus de reconstruction. En tout cas, moi ça me permet de rendre visible cette partie très intime de notre histoire. Et j'en ai besoin. Aujourd'hui, quand je vois ce tatouage, alors je le vois déformé puisque je le regarde en biais ou dans un miroir, mais je le ressens plus physiquement. J'ai l'impression que je le sens dans ma peau au quotidien, alors que ça n'a pas altéré la peau à ce point, mais je le sens physiquement. Donc même si je ne le vois pas souvent, je sais qu'il est là. Et quelque part, ça m'apaise. Donc actuellement, j'ai 6 grossesses au compteur, j'ai 32 ans. J'ai eu Ada en 2019, ma première grossesse. Puis une fausse couche début 2020, juste avant la séance de tatouage. En juillet 2020, j'ai eu une troisième grossesse qui a été soldée en fausse couche aussi très rapidement. Fin 2020 et début 2021, ma quatrième grossesse, donc qui a été quatrième grossesse, mais première grossesse qui a eu un début de médicalisation avec des cachets que je prenais quotidiennement et qui a été différente parce que j'avais plus de douleurs, plus de saignements contrairement aux autres. On a revu un cœur qui battait et à l'échographie d'après, le cœur ne battait plus et on a appris qu'il battait plus depuis 3 semaines, donc de nouveau un raz-de-marée émotionnel avec de savoir que j'avais perdu ce bébé depuis 3 semaines dans mon ventre, qu'il était mort. Enfin, ça s'est soldé donc en fausse couche avec un curetage et le bébé est parti. On a fait des analyses, on a juste su que c'était une fille, mais on n'a pas su plus. Ensuite, j'ai fait une grosse pause, ça faisait trop. Et comme il y avait un dernier médicament qu'on n'avait pas essayé, en fin 2021, on a retenté une cinquième grossesse avec tous ces médicaments, et donc les injections en plus. Et bon, alors, grossesse sous le signe de l'angoisse, évidemment. Mais on passait, donc au début, on faisait des échographies toutes les semaines. En fait, j'alternais entre les médecins. Ils le savaient pas trop, mais toutes les semaines, j'avais besoin de me rassurer. Et puis, on a passé le premier trimestre. Puis, en fait, la grossesse s'est extrêmement bien passée de A à Z. Il est resté 9 mois et 3 jours dans le ventre. C'était un garçon, donc c'est Pablo. Un accouchement qui s'est très bien passé. Enfin, vraiment, tout s'est très très bien passé. Il était en super forme. Ça a fait un rayon de soleil dans nos vies, forcément. Donc Pablo a aujourd'hui 10 mois. Après 5 grossesses et un petit Pablo rayonnant, on a eu envie d'essayer un deuxième. Alors qu'on en voulait qu'un initialement, hein. Donc actuellement, je suis enceinte de 2 mois et demi. Alors je trouverais ça fou qu'après toutes les galères qu'on ait eues, ça marche 2 fois. Bon, je prends aussi les médicaments, alors c'est sûr que ça doit aider. Mais on croise les doigts, on espère que ça va bien se passer. Et en tout cas, si ça marche du premier coup, ce serait juste dingue. Et voilà, un peu tous les tatouages que j'ai rattrapés aussi. Ça, si on veut faire une petite pincée pour chacun, Pablo, alors je sais, j'ai aucune idée parce que c'est tellement fort ce qu'on vit que j'ai l'impression qu'un tatouage suffirait pas à représenter toute son identité. Enfin, c'est juste dingue.
Je suis Sophie de Chivray et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et d'offrir à mon travail une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer une pluie d'étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte Instagram aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.